d'apprécier aussi objectivement possible la signification de cette philosophie des droits de l'homme qui est aujourd'hui une des plus invoquées comme une espèce de remède universel. Quelle que soit la maladie dont souffre le corps social, c'est le droit de l'homme doit pouvoir, pas comme les médecines de Molière, résoudre la question. De quoi s'agit-il ? Alors je vais développer, si vous voulez, 4 ou 5 points, 4 ou 5 idées successives qui serviront d'une part à définir ces droits, ce que signifie cette philosophie, et deuxièmement à la comprendre et à la juger, ou à commencer à la juger. Alors premièrement, la définition. Les buts de cette philosophie et de sa signification. Alors premier point, cette philosophie des droits de l'homme, comme vous le savez, dont on peut dire, dont je vais d'ailleurs essayer de montrer qu'à bien des égards, elle est une philosophie très moderne, je veux dire qu'elle n'a guère au fond que 2 ou 3 siècles, contrairement à ce qu'on dit souvent. Cette philosophie commence par l'affirmation que l'homme, en tant que tel, pas entendu naturellement l'homme et la femme, pas les hommes et les femmes, et je prends le vieux concept de philosophie, j'ai été élevé comme ça, je ne sais pas pourquoi je changerais de vocabulaire aujourd'hui, l'homme ça signifie le genre humain, bon. Eh bien c'est l'idée que l'homme en tant que tel a des par nature des droits. C'est l'idée, si vous voulez, qu'il y a un des droits naturels de l'homme. Et vous voyez, c'est d'ailleurs ce que déclare très explicitement la Déclaration française des droits de l'homme, puisqu'elle distingue, comme vous le savez, les droits de l'homme et du citoyen. Bon. Il y a les droits de l'homme, puis il y a les droits du citoyen. Donc on va les voir. Mais quel est le rapport? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il puisse y avoir les droits de l'homme? C'est l'idée donc qu'il y a, par nature et avant même qu'il y ait des droits du citoyen, qu'il y a des droits de l'homme, par nature. On croit retrouver ainsi, et beaucoup des avocats de cette doctrine disent, mais au fond, on ne fait que retrouver là une très vieille tradition. Ça fait pas des siècles qu'on parle du juste naturalisme, du droit naturel. Dieu t'aime, l'Église catholique est pleine de droits naturels. La philosophie grecque, la philosophie païenne est pleine de droits naturels. Alors je crois que la première idée, la première chose à faire, c'est de comprendre que ces droits naturels, que ce juste naturalisme, si vous voulez, pour reprendre l'expression classique, que ce juste naturalisme moderne n'a rien à voir avec le juste naturalisme classique, traditionnel. Que vous pouvez trouver l'expression de droit naturel chez Aristote, chez les stoïciens, aussi bien que chez les philosophes éclairés du 18e ou les théoriciens de la Déclaration internationale des droits de l'homme de 1948. Ce n'est pas du tout le même sens. L'idée n'est pas du tout la même. Alors, par conséquent, première chose, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de moderne dans les droits de l'homme? D'abord, pour comprendre ce que c'est que le droit naturel dans ce que j'appellerais la tradition, c'est-à-dire aussi bien dans des philosophes grecs ou romains que dans la philosophie chrétienne. Le droit naturel, c'est d'abord l'idée. D'abord, on parle du droit naturel, on ne parle pas des droits naturels de l'homme. Qu'est-ce que c'est que le droit naturel? Je pourrais parler très longtemps sur plusieurs, je vous me permettrai d'aller assez vite, et puis quitte à ce que dans les questions on précise, mais en gros, et pour en essayer d'en venir à l'essentiel, le droit naturel dans la tradition, c'est l'idée qu'il existe de toute éternité. Pour des raisons qui, dans la tradition chrétienne, sont d'ordre religieux, dans la tradition païenne, d'ordre métaphysique, enfin peu importe, qu'il existe. un ordre du monde, une nature des choses, qu'il existe une harmonie des choses, qu'il y a une espèce de plan dans les choses. Et l'un des aspects particuliers de ce plan, c'est notamment qu'il existe une justice. Des choses qui sont justes et des choses qui sont injustes. Comme vous avez du beau, du bien, si vous les ouvrez Platon, il y a du juste. Et vous savez que chez Platon, la justice, le juste, c'est peut-être là d'ailleurs la valeur suprême. Enfin, c'est l'idée suprême. Bon. Alors, ce qui veut dire que la justice, ce qui est juste, le todikaion, en grec, id quod est justum, comme disent les latins, le justum, le dikaion, c'est une chose. C'est une forme de l'ordre général des choses. C'est la manière dont les choses sont. Il est juste que le lion soit comme il est. Il est juste que le poisson ait des nageoires et des branchies, etc., etc. Ça n'a... Alors, par rapport à l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que développe cette conception de la justice? Bien, par rapport à l'homme, cela veut dire que, au fond, n'est-ce pas, l'homme a essentiellement des règles à suivre qui sont les règles naturelles. La nature a son plan, enfin, son harmonie dans laquelle l'homme doit se fondre. Et ce qui est important avant tout, ce n'est pas que on rende justice à l'homme. Ce n'est pas la question. La question première, c'est que le vrai crime, ce n'est pas le délit commis contre un homme, c'est le délit commis contre la nature. Le vrai crime, il est religieux. Le vrai crime, il est un désordre introduit dans l'ordre naturel des choses. Le vrai crime, c'est de troubler les dieux. Le vrai crime, c'est d'attenter à l'ordre naturel des choses. Et alors, naturellement, il y a des retombées sur le plan humain. Alors, bien entendu, à partir du moment où, il est contraire à l'ordre naturel des choses qu'Édipe tue son père et épouse sa mère, naturellement, ça comporte des conséquences humaines. Mais ces conséquences humaines ne sont pas le centre, n'est-ce pas, le nerf de cette conception de la justice. Le sort de l'homme, ça n'est pas la question. Ce qui importe, c'est que, en agissant comme il l'a fait malgré lui, Œdipe a troublé l'ordre établi par les dieux. C'est ça qui est mauvais. Et c'est pour cela qu'il doit être châtié. Et c'est parce qu'il doit être châtié que la victime éventuelle peut, en effet, alors, recevoir justice, se voir accorder justice. Mais on ne cherche pas du tout, ce n'est pas les mânes du père d'Œdipe qui réclament vengeance. La vengeance, c'est humain. La vengeance, ce n'est pas de la justice. Ce qui compte d'abord, c'est que la beauté, l'ordre des... qu'on peut contempler dans le ciel et dans l'harmonie du ciel, cette beauté ne soit pas troublée. C'est ça qui est important. Et alors, l'homme en profite, par accident, par répercussion, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Au contraire, ce qui va se passer dans la mentalité moderne, c'est exactement l'inverse d'une certaine manière. On va considérer que l'idée qu'il y a un ordre dans la nature, une harmonie dans la nature, fait partie des imaginations dépassées et poussiéreuses. Quelques philosophes arriérés, quelques prêtres demeurés peuvent peut-être imaginer qu'il y a un ordre dans la nature. Non, il y a une chose qui compte, c'est l'homme. L'homme. Quand on dit le droit, l'homme a des droits naturels, l'idée des droits de l'homme, c'est d'abord l'idée que seul l'homme a des droits. l'idée des droits de l'homme, et on nous en va y revenir sur de plusieurs manières d'ailleurs, l'idée des droits de l'homme, c'est, et à mon avis, coextensive et inséparable de l'affirmation qu'il n'y a plus d'ordre naturel des choses, c'est-à-dire en réalité, c'est une affirmation qui est coextensive d'une philosophie athée. C'est l'homme seul devient sacré en quelque manière. L'affirmation que l'homme a des droits, eh bien c'est l'affirmation que l'homme a pris la place de la nature dans, comme objet à respecter. Donc, voyez-vous, ça n'a rien à voir avec le juste naturalisme moderne, n'est-ce pas ? N'a rien à voir avec le juste naturalisme classique de ce premier point de vue. Alors, ajoutons une note supplémentaire. Alors, cet homme qui a des droits, hein, qui est seul à avoir des droits dans la nature, cet homme qui devient le seul être naturel à respecter, quel est-il ? Eh bien, comme dit l'expression, droit naturel de l'homme, droit par nature, ce qu'il faut respecter dans l'homme, c'est l'homme naturel, c'est l'homme à l'état de nature. Les droits naturels de l'homme, la philosophie des droits de l'homme affirme la nécessité ou l'obligation que l'on a de respecter l'homme naturel, l'homme à l'état de nature, l'homme tel qu'il est par nature. Alors, cela étant, respecter le droit naturel de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a des droits par nature ? À l'égard de qui est-ce qu'il va les faire valoir, ces droits naturels ? À l'égard de qui, si vous êtes tout seul dans la forêt, vous avez des droits, et bon, et alors ? C'est très joli. Vous promenez tout seul dans la forêt au milieu des lions ou des loups, que sais-je, et puis vous clamez que vous avez des droits. Bon. Vous faire plaisir, c'est très bien, mais du point de vue philosophique et en tous les cas pratique, ça ne fait pas grande différence. Autrement dit, le droit, bien évidemment, ça fait partie du bon sens le plus élémentaire, le droit n'existe, bien entendu, que s'il est reconnu comme un droit. Cette philosophie des droits naturels de l'homme, l'homme a par nature des droits, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'homme a par nature des droits ? Alors que, bon, c'est l'homme qui est sacré, ça c'est une première chose, mais il y a un deuxième problème, n'est-ce pas, vous comprenez bien ? Deuxième problème, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui prétend avoir tout seul, comme ça, par nature, il a des droits ?
Mais des droits, mais
qui est-ce qui les lui reconnaît, ces droits ? Et un droit pas reconnu, bon, ce n'est pas un droit du tout. Il n'y a, si vous voulez, en d'autres termes, d'un simple point de vue de bon sens, que des droits positifs. Bon, alors... vous combinez maintenant les deux idées, vous obtenez une première définition des droits naturels de l'homme, des droits de l'homme. Ce sont les droits que l'homme possède parce qu'il est naturellement, en tant qu'homme. Et puis alors, ce sont des droits qu'il faut bien faire reconnaître par les autres. Les droits de l'homme sont des droits reconnus par les hommes. Sinon, c'est un flatus vocis. Bon. Eh bien, ces droits... alors qu'est-ce que ça veut combiner les deux définitions, vous obtenez quoi ? Bien, vous donnez l'idée que les droits de l'homme, ce sont les droits qu'a l'homme d'être reconnu à l'état de société par les autres comme ayant droit à être ce qu'il est à l'état de nature. Les droits de l'homme, n'est-ce pas, c'est au fond la perpétuation de l'état de nature, en d'autres termes, la perpétuation de l'état de nature dans l'état de société. Les droits de l'homme, c'est l'affirmation que l'homme étant ce qu'il est par nature, bon, eh bien, non seulement il l'est, il a le droit de l'être, ça, toujours l'être, mais il faut que ce qu'il est par nature, à l'état de nature, soit reconnu par les autres. Je suis loup et je demande à être reconnu comme loup par les autres, loup ou pas loup d'ailleurs. C'est ça, la théorie des droits de l'homme, bon, dans son point. Bon. Alors, voilà mon premier point, n'est-ce pas ? Il s'agit, en d'autres termes, et d'une certaine manière, si vous développez cette formule, vous avez toutes les conséquences que nous allons pouvoir étudier. Enfin, il s'agit de légitimer, de valider ce que l'homme est par nature. Par nature. Et vous allez voir ça. Bon. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cet homme naturel ? Alors, deuxième point, vous comprenez ma deuxième idée, c'est tout simple. Alors qu'est-ce que c'est que cet homme naturel qu'il s'agit de faire reconnaître par la société, par tout le monde? Alors là, ben, ça c'est plus facile, n'est-ce pas? On commence à faire marcher la devinette, n'est-ce pas? Et c'est tout le 18e siècle qui défile, qui va défiler sous nos yeux. Alors première idée, ben, cet homme naturel, alors il a des droits. Bon. Alors s'il a des droits, ça veut dire que d'une certaine manière, manifestement, c'est qu'il a le droit d'exister, enfin, c'est qu'il y a. Ben, qu'il a le droit d'exister, je disais tout à l'heure, il est sacré, cet être-là, il vient d'être sacré, ça veut dire quoi? Ben, vous connaissez la fameuse formule du 18e siècle, enfin, le grand thème du 18e siècle, ah ben, l'homme à l'état de nature, il est bon. L'homme à l'état de nature, ben, c'est l'homme tel qu'il devrait être, bon. C'est l'homme tel qu'il doit la simple affirmation que l'homme a par nature des droits ou à l'état de nature, c'est l'affirmation, évidemment, je vais même l'écrire au tableau, c'est l'affirmation que ce qu'il est par nature, ce qu'il est naturellement, ou si vous préférez un terme plus philosophique, ce qu'il est immédiatement, ce qu'il est sans travail, ce qu'il est en se donnant simplement la peine de naître, comme disait Beaumarchais d'autres, simplement en se donnant la peine de naître, eh bien l'homme est tout ce... Et là, tenez, je retrouve des formules de Rousseau qui me restent sur Rousseau, c'est pas que j'ai une admiration particulière pour Rousseau, je dois vous le dire, mais Rousseau est un admirable condenser, tout le 18e siècle, n'est-ce pas, se concentre en lui et il l'exprime. C'est une caisse de résonance, n'est-ce pas? On tape sur le tambour et le tambour distribue ce que pense le siècle, n'est-ce pas? Eh bien, Rousseau vous dit, l'homme, il est simplement parce qu'il est tout ce qu'il doit être. Du simple fait que l'homme est, il est tout ce qu'il doit être. Nous butons tout de suite, très rapidement, vous voyez, sur des énormités. Nous butons sur des choses absolument, qui sont un défi au bon sens. Enfin, continuons à élaborer l'idée, n'est-ce pas? Je suis par nature tout ce que je dois être. Donc, je suis, du simple fait que je suis né comme je suis, j'ai droit à être reconnu comme je suis par tous les autres. Voilà l'affirmation centrale de la philosophie des droits de l'homme. Alors évidemment, vous voyez là comment la philosophie va se développer. Vraiment, vous n'êtes pas toujours très agréables les uns pour les autres. Même le bon Rousseau, avec son bon sauvage et tous les autres autour de lui, disent quand même le bon sauvage, il a des côtés assez déplaisants. Il n'est pas toujours tellement bon, le sauvage. Alors, comment alors là il se gratte la tête, comment est-ce qu'il va sortir de là? Enfin, je suis quand même Jean-Jacques Rousseau, je me plais bien à moi-même, enfin là, mais voyons, évidemment de temps en temps je ne suis pas fort. Non, je suis peut-être un peu critiquable, c'est vrai, enfin alors. Ah, il m'a trouvé la solution, ben, c'est que je suis bon, je suis tout ce que je dois être, mais les circonstances m'ont fait mauvais. C'est les circonstances qui changent tout. Vous savez, l'homme est bon, mais la société en est méchant. Ça, c'est pas seulement du Rousseau, c'est tout le 18e siècle, et depuis, qu'est-ce que vous avez là derrière? Ouais, ben, faut pas que je m'égare, je suis mon petit chemin, mais qu'est-ce que vous avez derrière? Mais vous avez tout le marxisme. Vous avez tout le socialisme. Vous avez, on ne dit plus rien de nouveau depuis le 18e, tout est cuit. Cut and dry. C'est tout le marxisme. Qu'est-ce qu'il vous dit Marx fondamentalement? Mais les hommes, enfin, il suffit d'ôter, n'est-ce pas, tout l'artificiel. C'est-à-dire les capitalistes, enfin, les chrétiens, les bourgeois, les tout ça, etc. Bon, et puis vous avez une société parfaite. C'est ça, les droits de l'homme. Bon, c'est ça, la philosophie des droits de l'homme. Bon, alors, donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que cet homme naturel? Ma première idée, qui me paraît cruciale, c'est que c'est un homme qui est, je le redirai tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant, tant pis, C'est un être qui se croit parfait. Et j'emploie le mot de perfection de manière parfaitement précise, parce que vous trouvez dans le contrat social de Rousseau la définition de l'homme comme un tout parfait. Rousseau est parfait. Moi, Jean-Jacques, je suis parfait. Personne n'a rien à dire ce que, je suis. Je suis comme je suis, j'ai le droit de l'être, et j'entends qu'on me reconnaisse pour ce que je suis. Et puis, si par hasard j'ai quelques vices ou quelques défauts, alors là, il suffit de s'adresser aux autres. Qu'ils m'en cessent de m'empoisonner, et puis on verra comme je suis bon et comme je suis parfait. Bon, alors, deuxième caractéristique. En quoi consiste, alors c'est cet homme qui est bon, sa nature, ça consiste à quoi faire? Alors là aussi, une idée qui me paraît tout à fait amusante, parce qu'elle a un côté enfantin, comme toute cette philosophie d'ailleurs, mais enfin enfantin, sauf qu'elle a des conséquences sur les plaisantes. Autre idée, cet homme qui est parfait par nature, enfin cet homme qui a ses droits, qu'est-ce qu'il va faire? Alors ça consiste à quoi faire sa nature? Quelle va être sa vie? Alors là aussi, caractéristique essentielle de cette philosophie des droits de l'homme, vous voyez, puisque, et là encore je n'ai pas le temps de développer l'opposition complètement à la philosophie traditionnelle, et puisque vous êtes parfait comme vous êtes, d'une certaine manière vous n'avez rien de particulier à faire. Bon, le chrétien, lui, ou même d'ailleurs l'homme de Platon, il n'est pas lui, il n'est pas parfait, alors il a beaucoup de choses à faire. L'homme de Platon, avant de devenir vraiment homme, peint sur la planche. Le chrétien, il se trouve un peu pêcheur, alors il a beaucoup de pain sur la planche aussi, avant de se rendre un peu plus humain. Mais moi, je suis très bien comme je suis, vous comprenez, je suis parfait. J'ai à faire. La réponse est très simple. Il n'y a rien de particulier à faire, justement. C'est-à-dire, j'ai n'importe quoi à faire. Cette nature, puisqu'elle est parfaite, ne peut évidemment se définir, en termes un peu abstraits et un peu plus bourrés, ne peut évidemment se définir que par son indétermination fondamentale érigée au rang de vertu, érigée au rang de perfection. Ma perfection consiste à pouvoir faire n'importe quoi. Vous voyez les conséquences ultérieures sur les droits. Par définition, ces droits sont indéfinissables. C'était tout. Enfin bon, mais on ne discute pas sur la... Mais enfin, vous voyez, du simple fait de l'affirmation de ma perfection, il suit que ma nature a comme perfection d'être justement... tenez, les mots me viennent à l'esprit maintenant, comme aurait dit le bon Freud, un pervers polymorphe. C'est la même philosophie. C'est exactement la même philosophie. Je peux être tout ce que je... Tout ce qui me passe par la tête d'être, ce qui avait été pendant 20 siècles une imperfection, pas le caractère indéfini, le mauvais infini de la nature humaine, devient précisément la perfection. Bon, alors, continuons et achevons cette description. Je voudrais ajouter un troisième point, je m'étais mis un troisième point de cet homme naturel. Bon. Alors, il y a. Il y a un troisième problème extrêmement excitant pour l'esprit, enfin au moins pour moi, mais le point de vue philosophique, c'est assez tout ça. Il se dit le fait que, j'ai affirmé donc ma perfection, j'ai affirmé mon droit à faire n'importe quoi, il n'en reste pas moins que, d'une certaine manière, je suis, puisque je réclame mes droits, c'est que je ne suis pas encore complètement cet homme naturel que je veux être. Il y a quelque chose qui en moi n'a pas encore cette perfection, dont la perfection n'est pas complètement actualisée. Et ces hommes parfaits, alors on retrouve en partie le problème de la responsabilité des sociétés, mais là on va le traiter d'une manière un petit peu différente. Cet homme parfait, n'est-ce pas, il se présente également bien souvent comme un personnage sur le plan social, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas parfait. Or, ce qui me paraît très intéressant, c'est que cette philosophie des droits de l'homme consiste à affirmer les droits non pas d'un être virtuel, non pas de l'homme possible, enfin, que je suis à l'état de nature, mais de l'homme en société. Enfin, je suis ce que je suis dans la société, et c'est moi quand même, comme je suis Jean-Jacques Rousseau, je vis dans telle société, et c'est à moi qu'il s'agit de reconnaître des droits. Pas au Jean-Jacques Rousseau parfait, naturellement parfait, que je pourrais être le jour où les conditions sociales, n'est-ce pas, auront été suffisamment aménagées pour que je sois enfin, que je révèle enfin ma perfection. Non, mais il faut quand même le partendre, vous comprenez ? C'est là que vous voyez une grande différence d'ailleurs avec précisément, et j'ai l'occasion d'en revenir à un mot tout à l'heure, avec la philosophie traditionnelle. Bon, il faut, ces droits de l'homme, c'est des droits de l'homme qui sont concrets, pratiques, praticables, immédiatement. Bon, la société doit être à partir de je ne sais plus quand, juillet 1789, une société des droits de l'homme. Bon. Et il est clair qu'on n'est pas revenu comme ça à l'état de nature. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voyez-vous, alors là, c'est une des idées qui me paraissent les plus vicieuses, les plus dangereuses, n'est-ce pas, mais les plus profondes de cette philosophie. Et que, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'homme que je suis, hic et nunc, l'homme que sous l'homme que je suis en société dans l'instant présent, vous avez évidemment l'homme parfait qui lui a des droits. Bon. Mais comme vous avez commencé par dire qu'en réalité, tout ce que l'homme parfait, tout ce que l'homme actuel, tout ce que l'homme social a de mauvais, éventuellement, c'est dû aux circonstances. Vous ne pouvez quand même pas l'accuser, cet homme-là. Cet homme-là, il est innocent, comme dit encore une fois, vous voyez, le mot me vient spontanément à la bouche. Rousseau dit, il est innocent. Ce n'est pas, puisque tout est, ce qu'il a de mauvais, c'est les circonstances. Donc, en réalité, l'homme social et l'homme naturel ne font qu'un. En réalité, puisque ma nature est à l'état de nature bonne, et que ce que la société ou les circonstances peuvent y avoir ajouté de mauvais n'est pas de moi, je suis dans l'état de société aussi bon et aussi parfait que je suis à l'état de nature. Alors, je vous traduis ça, si vous voulez, je n'ai pas le temps de développer le raisonnement après, mais une application concrète évidente, ça veut dire, ben c'est, là encore, dans cette pratique courante, au nom de la philosophie des droits de l'homme, il n'y a plus de criminels, il n'y a plus de défiance, il n'y a plus d'anormalité, il n'y a plus de moyens de juger. La difficulté que nos sociétés éprouvent de plus en plus à juger, et je dirais non seulement à juger, mais à punir, qui est une caractéristique de sociétés décadentes, qui n'ont plus foi en elles-mêmes, n'est-ce pas, me paraît résulter en large partie de la philosophie des droits de l'homme, parce que précisément, ce n'est pas seulement lâcheté, ce n'est pas seulement mollesse d'esprit ou stupidité, c'est plus profondément que on n'arrive plus à imputer les fautes ou les crimes. C'est que précisément, on ne sait plus où sont les crimes, puisque les hommes sont parfaits, et quand ils ne sont pas parfaits, c'est pas de leur faute. Comment voulez-vous punir sur ce pas? Comment voulez-vous qu'il y ait une justice sur ces bases ? L'homme social est en réalité, quoi qu'il fasse, un être parfait. L'homme possible sert à justifier l'homme réel, puisqu'en réalité, l'homme réel n'est différent de l'homme possible que par des détails qui ne dépendent pas de lui, qui ne dépendent pas de sa nature. La philosophie des droits de l'homme devient, alors ça, naturellement, dans tous les journaux de l'époque, dans tous les journaux de progrès, ça devient une vertu. C'est la tolérance, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est la permissivité, etc. Non ? Oui, c'est bien tout ça, bien entendu, mais parce que c'est plus profondément une incapacité à voir et à juger, n'est-ce pas, de la réalité des êtres humains, des hommes, et à les jauger véritablement. Alors, je voudrais, d'accord, je ne veux pas vous lancer, vous êtes bien gentil d'être venu. Alors, voyons, combien voulez-vous que je parle? Je vais avancer un petit peu, il est 8h20, ma manche. On avait commencé, ça fait une heure que je parle ma foi déjà.
Non.
Non, qu'est-ce que j'ai commencé à quelle heure? 7h30, non, 7h30, on a commencé 8h moins le quart, ça fait une demi-heure. Bon, alors on va, bon je sais pas, je vais aller jusque vers entre 9h moins le quart et 9h, quoi. Parler une heure et quart, ça va, ça vous ennuie pas? Si vous voulez, hein, moi je vous savez. Bon, alors, oui, j'ajoute une petite, si vous voulez, on pourrait ajouter ici une petite note. Pour faire ressortir simplement l'opposition qui existe entre la philosophie des droits de l'homme et la philosophie classique. Parce que, enfin, beaucoup de gens, et je l'ai lu, je l'ai entendu, disent, enfin, voyons, à nouveau, nous retrouvons la tradition. C'est la tradition à l'état pur. Enfin, la commisération pour les méchants, pour la compréhension de tous les criminels, il faut quand même que ça fait le pardon des offenses, le pardon accordé au pire crime. Et ça fait partie de la tradition. On est en plein dans le christianisme, la philosophie des droits de l'homme, et vous savez très bien que c'est une idée très répandue. La philosophie des droits de l'homme, c'est l'achèvement. C'est la perfection du christianisme. C'est la promotion des humiliés, des offensés, etc. Bon, alors là, on pourrait développer ça, si vous voulez, fort longuement, mais vous comprenez bien ce qu'il en est. Enfin, ce qu'il en est, c'est que, il me semble, s'il y a une idée qui me semble profonde, qui a couru dans la philosophie jusqu'à l'apparition des droits de l'homme et qui continue à courir, d'ailleurs, dans la même philosophie qui survit à celle des droits de l'homme, enfin, la seule philosophie à régner jusqu'à l'apparition des droits de l'homme, s'il y a une idée qui est profonde dans cette philosophie, c'est bien précisément la créature, l'individu, n'est jamais totalement aimable. Il y a toujours, n'est-ce pas? Et les Grecs sont d'ailleurs beaucoup plus brutaux que les chrétiens. Les chrétiens ont adouci. J'aurais tendance à dire, là encore, je touche à un thème qui m'est cher, mais je vais très vite. J'aurais tendance à dire que chez un Platon, par exemple, l'individu est une quantité tout à fait négligeable. Ce qu'il a d'individuel, de subjectif, c'est sans aucun intérêt. C'est une philosophie, tu vois, à certains égards, me tente, parce que j'ai un petit côté inhumain. Mais c'est une philosophie inhumaine, effectivement, à bien des égards. C'est pas l'individuel, le subjectif, tout ça, c'est vraiment le nom divin, n'est-ce pas? Alors les chrétiens adoucissent évidemment considérablement le langage, le discours, n'est-ce pas? Et pour les chrétiens, au contraire, chaque créature se prend d'une valeur unique, prend d'une valeur pour elle-même, n'est-ce pas? Elle est l'objet d'un acte unique et chaque fois répété d'une manière unique du créateur, n'est-ce pas? Il n'empêche que, me semble-t-il, après le péché, la créature, même si elle fait tous les efforts qui peuvent lui attirer l'amitié de Dieu, ne pourra jamais être sauvée que par une grâce qui, en dernière analyse, est toujours gratuite par rapport à ce qu'est la créature. Autrement dit, c'est qu'il y a une tradition qui est constante, une idée qui demeure, qui court constamment au fil des siècles dans les philosophies du paganisme au christianisme, qui continue à courir, c'est que la créature n'est jamais totalement aimable. Et bien, c'est exactement l'inverse. Ouais. Nous sommes exactement aux antipodes avec la philosophie des droits de l'homme, parce que précisément, la philosophie des droits de l'homme affirme que la créature est par définition totalement aimable. Et que ce qu'elle a de déplaisant doit être considéré comme négligeable. Bon. Oui, j'avais écrit pour les classiques, n'est-ce pas, l'individu n'est jamais totalement capable de se sauver tout seul, n'est-ce pas, pour la philosophie des droits de l'homme, l'individu n'est jamais entièrement condamnable, au contraire. Le pire des crimes, pas, demeure encore quelque chose qui est explicable, pas, qui est au fond, qui fait partie de la nature des jugements. Bon. C'était une petite note en... Alors, passons, voilà, si vous voulez, une première définition de la philosophie des droits de l'homme. Alors, de mon deuxième point, c'est très rapidement, quels sont ces droits? Les droits en question, hein, ça consiste en quoi? Alors, je dirais deux choses très rapidement. La première, c'est que, d'une certaine manière, la définition concrète de ces droits, l'énumération des droits en question, quels sont les droits de l'homme? Vous l'avez compris, d'après ce que j'ai dit, cette énumération est impossible à faire. Parce que précisément, ce qui caractérise ces droits, c'est qu'ils sont en nombre, par définition, indéfinis. Les droits de l'homme, c'est n'importe quoi. Les droits de l'homme, c'est une capacité, on a droit à tout ce que l'on peut désirer, si vous voulez. Hein? Il suffit qu'un homme se sente un désir de quelque chose pour avoir droit à l'objet de ce désir, ou à la satisfaction de ce désir. Par conséquent, par définition, n'est-ce pas, ce qui caractérise... Tenez, je vais tenter pour reprendre une formule qui courait sur les murs des facultés, les murs des universités en 1968 en France, je dirais que le droit de l'homme à peu près unique, enfin, ou la formule sous laquelle se régime la totalité des droits de l'homme, c'est, comme on disait à l'époque, comme disaient les 68ards, il est interdit d'interdire. C'est la formule, n'est-ce pas, qui, d'une certaine manière, me paraît résumer l'ensemble des droits de l'homme. Alors, cela étant, et sur fond, par conséquent, d'indétermination foncière de ces droits, alors, est-ce qu'il y a des droits plus précis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus à noter? Alors, évidemment, bon, j'en retiendrai deux, mais je voudrais insister particulièrement sur eux. Alors, vous connaissez les formules, il y a en particulier le droit à la liberté. Bon, eh bien, je me bornerai à dire, pour aller vite, je crois que, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à penser que la philosophie des droits de l'homme se fiche complètement de la liberté. Et qu'en réalité, il y a une seule chose qui compte. Et ce qui est après cette espèce d'indétermination foncière qui me paraît originelle, et principielle, le droit essentiel auquel tiennent les philosophes des droits de l'homme, ceux qui se sentent avoir des droits, c'est l'égalité. La passion égalitaire de nos sociétés me paraît s'enraciner dans cette philosophie des droits de l'homme. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle passion de l'égalité? Pourquoi est-ce que la philosophie des droits de l'homme a une espèce de... cet amour de l'égalité poussé à un point tel que c'est en fait un amour de l'égalitarisme, n'est-ce pas? Eh bien, on peut en citer deux, la première est la plus évidente, mais la seconde me paraît plus profonde et plus intéressante. La première raison est toute simple, à mon avis, ça vaille la peine d'y réfléchir un petit peu, parce qu'il s'agit d'une dénaturation moderne. Les modernes ne savent plus, enfin le monde moderne ne sait plus ce que c'est que la liberté. Je veux dire par là que la liberté est essentiellement conçue comme la faculté de ne pas être empêchée de... Et je voudrais citer sur ce point Hobbes, un philosophe anglais que vous connaissez probablement. Vous savez, la définition de liberté, la liberté selon Hobbes, c'est magnifique. Enfin, c'est tellement moderne. L'eau est libre quand le vase qui la contient se casse. Enfin, l'eau est contenue dans un vase, je le laisse tomber, le vase se casse, l'eau est libre. Il n'y a plus d'obstacle. Enfin, c'est une liberté qui n'a pas de frein. Enfin, c'est le contraire de la liberté pour la tradition. Bon. Mais alors, toujours est-il que, dans ces conditions, comment se définit la liberté? Par l'absence de vase, c'est-à-dire en termes humains, par l'absence de maître, c'est-à-dire par l'égalité. D'où cette idée passionnante, mais extrêmement dangereuse, qui a été mise en application. Il suffit que les hommes soient égaux pour qu'ils soient libres. Moyennant quoi, vous obtenez les pires despotismes tels que ceux que vous pouvez constater dans les pays, par exemple, communistes, les hommes sont libres parce qu'ils sont égaux, il leur suffit de sentir qu'ils soient égaux pour se croire libres.
Ça vient d'un très random.
Bon, mais il y a une deuxième idée. Il y a une deuxième. En soi, me semble-t-il déjà assez important, mais j'aurais tendance à insister un peu plus encore sur une deuxième raison, n'est-ce pas? Ce qui est capital, vous le comprenez, dans la philosophie des droits de l'homme, si j'ai des droits en tant qu'homme, il est, vous le comprenez, je crois qu'on peut le sentir très rapidement et assez aisément, si j'ai des droits en tant qu'homme, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, simplement en me donnant la peine de naître, bon. Par définition, cela veut dire, le corollaire de cette première proposition, c'est qu'il faut bien que, d'une certaine manière, je n'ai rien à faire ou à prouver pour obtenir ces droits. Parce que, dès l'instant que l'obtention de ces droits est subordonnée à l'accomplissement d'une tâche, à la démonstration d'une qualité ou d'une vertu, alors à ce moment-là, ce n'est plus les droits de l'homme. Ce sont les droits de tel ou tel en fonction de telle ou telle qualité, etc. Autrement dit, la philosophie des droits de l'homme suppose intrinsèquement une vision radicalement égalitaire. Il faut, et alors, si vous allez au bout du raisonnement, vous obtenez des principes d'action politique. Il faut supprimer toute espèce d'inégalité, et la supprimer de manière tellement radicale que ça veut dire en réalité supprimer toute espèce de différence entre les individus pour qu'ils soient effectivement assurés de jouer des mêmes droits. L'égalité des... l'attribution des droits suppose évidemment qu'ils ne soient pas subordonnés à la position d'une qualité particulière dans l'individu. Par conséquent, il faut qu'il y ait une uniformité. La fille des droits de l'homme suppose, puisque ce sont des droits de l'homme, l'uniformité des hommes. C'est-à-dire, en d'autres termes, et pour aller aussi à la conclusion, la philosophie des droits de l'homme, c'est une philosophie de la terreur. Tout homme est en permanence suspect d'être différent de ce que je suis et par conséquent dangereux. Mes droits sont constamment menacés par la différence d'autrui. Et là, vous avez une sacrée clé pour l'interprétation d'un sorte de phénomène parfaitement concret qui se déroule sous nos yeux, constamment, dans nos sociétés, et qui sont appelés, à mon avis, à se développer. Ça peut comporter des degrés, n'est-ce pas, évidemment, mais, ou d'une autre manière, si vous voulez, il est évident, ça avait évité sous d'autres manières, on aurait pu dire qu'il y avait plusieurs manières de développer le même thème, n'est-ce pas, mais il est évident que le sentiment de ma propre perfection individuelle suppose que personne ne soit différent de moi. Toute espèce de différence est une atteinte à ma dignité humaine. Bon, alors, passons à ma deuxième partie, si vous voulez, critiquer. Critique était évidemment, j'en ai peur, un petit peu développée déjà dans ma présentation des droits de l'homme. Mais enfin, essayons de la tirer un peu plus au clair. Alors, quelles sont les critiques que l'on peut adresser à cette philosophie des droits de l'homme? Eh bien, vous savez que la critique ne date pas d'aujourd'hui. Un auteur que j'aime bien, qui est encore plus incorrect que lui politiquement, qui est un Anglais du XVIIIe siècle, qui s'appelle Edmund Burke, qui a écrit un remarquable ouvrage, n'est-ce pas, Reflections on the French Revolution, vers 1790. Réflexion sur la Révolution française. Et Burke est un des premiers à attaquer en particulier l'Américain Paine, pas Thomas Paine, qui avait écrit quelques années auparavant ces fameux droits de l'homme. Et Burke attaque avec une vivacité et un style
style tout à fait remarquable. Il attaque cette philosophie des droits de l'homme et son thème essentiel, n'est-ce pas, c'est une abstraction. J'ai jamais vu d'homme. Vous disiez l'autre jour, c'est tout à fait une idée borgienne, n'est-ce pas, j'ai jamais vu d'homme. J'ai vu des Anglais, des Français, alors il y a les droits des Anglais, les droits des Français, les droits des Américains, mais les droits de l'homme, connus au bataillon. C'est une idée folle, en fait c'est une idée abstraite, pas, et la Révolution française, au fond, est le produit d'une espèce de peine enregistrée. C'est ces paroles, puisque ça va pas avoir la tôle de ces jours. Mais je mentionne cette critique, mais je voudrais en ajouter deux autres. Je voudrais montrer que ces droits sont d'une part illusoires, c'est-à-dire en réalité intrinsèquement contradictoires, et deuxièmement bien plus qu'ils sont dangereux, que c'est une philosophie dangereuse, et qui est directement, dont les résultats ultimes sont directement contraires, pas à ce qu'elle se propose de faire. Alors, encore une fois, outre le fait qu'effectivement, en effet, il s'agit d'une... Bon, on retrouve la critique que vous trouvez chez le français Joseph de Maistre aussi, par exemple, n'est-ce pas ? Ces droits sont... Cette philosophie, et qui est directement, dont les résultats ultimes sont directement contraires, pas à ce qu'elle se propose de faire. Cette philosophie est une philosophie abstraite. Ils sont illusoires. Pourquoi ? Eh bien, ils sont illusoires parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, ça apparaît, ça transparaît dans la simple formulation du précepte fondamental de cette philosophie, des droits. Je revendique mes droits. Mais revendiquer des droits, ça évoque, me semble-t-il, on ne veut pas le voir, parce que naturellement, il s'agit de la philosophie humanitaire par excellence. Il s'agit de la philosophie qui va couronner l'œuvre de la civilisation occidentale, n'est-ce pas, et installer, asseoir la société idéale. Mais j'aurais tendance à dire que cette philosophie procède au contraire, et n'est compréhensible que dans un climat ou que sous la lumière de la conviction profonde que les hommes ne sont pas sociables, justement. Si vous voulez, je veux dire que la revendication des droits suppose qu'on se sente menacé. Et je vous en donne un exemple d'ailleurs philosophique, une illustration philosophique. Un des premiers auteurs à avoir formulé, on ne le cite pas parce que, comme dira Rousseau deux siècles après, oh, c'est un horrible bonhomme, c'est un horrible monsieur, c'est pas l'horrible monsieur Hobbes, encore lui. Bon. Parce qu'effectivement, il avait mieux compris la situation d'ailleurs que Rousseau, à mon avis. Mais c'est la solution que Rousseau n'est pas, justement. Hobbes, c'est un des premiers à avoir formulé la théorie des droits de l'homme. Pas un premier à avoir pensé qu'il fallait d'important, l'intérêt de l'individu, c'était de faire reconnaître ses droits, dont le premier est d'ailleurs tout simplement le droit à la vie. Mais dans quel décor se formule cette théorie, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est la fameuse conception hobbesienne de l'état de nature, où Hobbes dit, plus brutalement, mais plus lucidement, à mon avis, Hobbes est un philosophe génial de la modernité, il a très bien compris de quoi il s'agissait, il a dit, il essaie d'en tirer les conséquences. Il n'est pas aimé pour ça, parce que les modernes veulent que tout se passe bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Enfin, mais Hobbes avait très bien compris. L'homme est un loup pour l'homme, homo mini lupus. Et c'est parce que l'homme est un loup pour l'homme qu'il est capital que l'homme ait des droits. Si l'homme n'était pas un loup pour l'homme, si je suis en compagnie d'amis, vous recevez les amis de samedi soir, dîner, Mais par contre, avoir deux bras, j'ai droit à mon bisexe. Hein. Bon, vous ne faites valoir votre droit au bisexe que si vous êtes dans une compagnie qui est prête à vous le voler. Vous n'avez de philosophie de droit de l'homme que sur fond d'hostilité de l'homme pour l'homme. Ah. Moyennant quoi, je dis, c'est une philosophie illusoire, une philosophie infantile. Parce qu'il est bien clair que si vous fonctionnez sur la base de cette définition, il n'y a aucun moyen. Et ça, ça va être dur de le dire aux tenants des droits de l'homme, il n'y a aucun moyen pour jamais gommer l'hostilité fondamentale de l'homme pour l'homme. Alors qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et c'est là qu'on voit la différence de Rousseau à Hobbes, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Alors Hobbes est plus intelligent, et plus lucide. Il va dire, oui, bon, ben, en intégrant des gens, ben, on va passer un contrat, naturellement, ça c'est la formule clé. On va passer un contrat, ah, bon, vous avez des droits, moi aussi, on veut vous connaître les autres, ouais. Et là-dessus, Hobbes se dit, ouais, mais enfin quand même, c'est pas comme ça que nous avons gommé notre nature de loup. Vous êtes quand même un loup et moi aussi. Alors, on va faire là-dessus, et bien, solution, nous allons instaurer un souverain. Alors là, un souverain, hein, ça va être ferme. Hein. Un souverain va tout être d'accord pour que le souverain il puisse enfermer le loup qui ne consent pas à se renier les canines. Là, le souverain, il est là pour faire régner l'ordre. Alors, on trouve que c'est atroce, naturellement, il est logique, il voudrait que ça se passe mieux. Il dit, oh là, quel horrible système, dit Rousseau, n'est-ce pas, bon. Alors, il dit, ben, il suffit en somme de passer un contrat, et vous connaissez toutes les historiennes sur la question, le contrat social, enfin, toutes ces petites affaires. Mais il y a une chose qu'on oublie, tout simplement, c'est celui des vraiment des balivernes, c'est ce que je pense véritablement, parce que quand vous passez un contrat, et là, nous tombons sur des choses que j'ai pu lire déjà il y a deux jours, c'est sur le même texte, c'est la même philosophie, vous voyez, c'est la même logique. Quand je passe un contrat, hein, bon, quand si vous voyez, un contrat commercial, enfin, prenons un contrat commercial, si vous voulez, après tout le chemin. Bon, enfin, mon intérêt, c'est évidemment de ne pas vous donner trop, et en contact que.
Amen.
Autrement dit, le contrat. Ça veut dire simplement que nous consentons à garder le six coups dans le holster, n'est-ce pas? Ils sont là, et on a les mains sur la table. Mais il n'empêche que si vous relâchez une seconde votre attention, je peux toujours essayer de pas frapper pour obtenir un peu plus que je ne pourrais selon la stricte équité. Tout contrat est en réalité une relation d'antagonisme. Tout contrat est en réalité une relation de guerre formellement pacifique. Pour vous donner rigoureusement ma définition classique, je vous répète toujours. Hein, c'est une guerre formellement, extérieurement pacifique. Alors, les droits. Maintenant, oh oui, oh ça, nous nous reconnaissons tous les droits qu'on voudra. Mais bon, mais qu'est-ce qu'ils valent, ces droits? Ben, ils sont évidemment suspendus, pas. Ils sont suspendus et très évidemment au fait que nous soyons en situation de nous surveiller réciproquement. Qu'est-ce qui désigne très exactement l'état de trêve. Vous n'êtes pas. Nous suspendons provisoirement les hostilités ouvertes, on se surveille, moyennant quoi nos droits sont garantis. Et c'est quand même. Peut-on compter sur ces droits? Ça me paraît totalement illusoire. Et ce n'est pas seulement l'ONU qui est une plaisanterie, c'est la philosophie des droits de l'homme qui est une. On peut toujours le droit, le droit. Le simple fait de proclamer tellement qu'ils ont des droits, c'est affirmer implicitement qu'ils vont tout faire pour ne pas les respecter, pour ne pas respecter ceux des autres. Puisqu'ils ont tous les droits, chacun a des droits. Pourquoi vous voulez que je m'occupe des vôtres? C'est mes droits qui m'intéressent, pas les vôtres. Donc, il s'agit d'une illusion pure et simple. Et comme disait d'ailleurs le bon Rousseau une fois de plus, l'amour de soi est le premier des sentiments humains et le plus naturel. La préférence pour soi est le sentiment humain le plus compréhensible hein, et le plus innocent. Bon, alors, je passe sur tout ce que je pourrais dire, ça me paraît très important, sur l'idée, n'est-ce pas, à mon sens, je vous donne là une des clés de la philosophie politique moderne, qui, au fond, à quoi se ramène la philosophie politique moderne ? Un développement de l'attitude de la réciprocité, de la valeur de la réciprocité. C'est vrai que c'est une valeur de la réciprocité, c'est vrai, je ne comprends pas. Mais il faut bien comprendre que c'est une valeur essentiellement limitée. Et que réciprocité n'est pas sociabilité. On ne fait pas une société avec de la réciprocité. Ou on fait une société qu'éminemment fragile, éminemment superficielle, c'est ce que nous avons. Ma conviction profonde est que nous vivons dans des sociétés qui n'en sont plus. Et je m'émerveille tous les jours que ça puisse continuer vaguement à marcher, qu'on ne me fasse pas la peau à tous les coins de rue. Ça m'épate toujours. On dit que les gens doivent fonctionner avec encore dans la tête des réminiscences d'une civilisation antérieure. Mais ça me paraît particulièrement évident en ce qui concerne, j'ai fait quelque temps une conférence sur le droit de propriété pour dire tout simplement que vous avez plus le droit de propriété. La propriété n'avait plus aucune espèce qui est attaqué de tous les côtés, mais il avait dans sa racine même d'ailleurs. Bon. Mais, bon, voilà, je termine par un dernier point. Enfin, j'ai encore deux choses à dire, ce sera très rapide. Premier point, alors mon deuxième point, j'avais dit que c'était des droits illusoires et dangereux. D'une philosophie non seulement illusoire, mais dangereuse. Pourquoi dangereuse ? Ben, vous devez le concevoir après ce que j'ai dit. Parce que c'est une philosophie, finalement, si vous voulez, qui, fondamentalement, n'est-ce pas, instaure le primat, instaure la supériorité, tente de fonder la supériorité de chacun sur tous les autres. De telle sorte que, lorsque, comme ça doit arriver nécessairement, les autres vous déçoivent, les autres ne consentent pas à se rendre avec votre supériorité, à votre supériorité, ne consentent pas à saluer en permanence votre perfection, ben, vous en concevez quelques désappointements d'abord, et puis ensuite quelques animosités. Alors cette animosité, elle a des degrés. Et nous voyons cette animosité grandir sous vos yeux. Le premier de ces degrés, ben, c'est ce qui est en train de se passer par exemple en France. Le premier degré le plus bénin, c'est un égard de l'animosité, ça consiste à, dans le discours que vous devez connaître au Canada aussi, je pense, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent, ça consiste à dire, ben, décidément, je ne suis pas assez reconnu dans tous mes droits, on me méprise un peu trop, on ne me satisfait point assez, mes désirs et mes souhaits ne sont point assez satisfaits, c'est quand même pas normal, on me le doit. La société me doit satisfaction. Je ne suis, comme disait Rousseau fort justement, je ne suis entré en société que pour mon avantage. Mon avantage, il n'est pas suffisant. Alors maintenant, j'aimerais que la société passe à la caisse. C'est ce qu'on appelle la social-démocratie. C'est une forme de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ah, c'est l'exploitation de ceux qui travaillent encore un peu par ceux qui ne travaillent pas du tout. C'est l'exploitation de ceux qui ont encore un peu de talent ou d'intelligence par ceux qui n'en ont plus du tout. Qui ne se donnent pas la peine d'exploiter ce qu'ils pourraient avoir comme talent éventuel. Alors tant qu'il reste un peu d'argent et que il y a de quoi puiser, enfin encore, la situation se tant bien que mal. Se dirige vers un point de pénurie, enfin vers un point d'épuisement du système qu'on voit dans tous les pays, dans tous les pays occidentaux, où manifestement cette civilisation qui se vante de s'enrichir tellement est en train manifestement de s'engluer dans les problèmes et en particulier dans le sous-développement. Bon, seulement il y a plus grave, il y a un degré supérieur de l'animal, enfin de la concurrence, hein, c'est que quand il n'y a plus rien à partager, quand ça commence à se dire, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est très simple, vous devinez le principe de la solution, que le bon vieux Sikou, vous voyez apparaître le ressentiment, vous voyez apparaître la haine, et je ne crains pas d'utiliser le mot. Les sociétés modernes sont des sociétés où le principe de la haine est latent. Et je n'en prendrai qu'un exemple. Je permets-moi de revenir sur mon arrière. À propos de cette exploitation de l'homme par l'homme dont je parlais, j'aurais dû mentionner, vous connaissez tous la fameuse discussion ou le grand argument marxiste, la critique marxiste des droits de l'homme qui sont des droits formels, enfin, uniquement formels. Et évidemment, l'idée même de laisser ces droits au plan formel est absurde. Enfin, le droit formel appelle le droit concret, matériel. Si j'ai le droit d'aller à Tahiti, vous n'allez quand même pas me dire de pas m'en donner les moyens. Parce que j'ai le droit d'y aller. Vous aussi, vous me donnez les moyens d'y aller. Bon, si on connaît le droit de propriété, si vous êtes riche et moi j'ai rien, je veux bien reconnaître votre propriété, mais enfin, ça consiste pour moi à reconnaître la propriété que vous avez et à crever de faim en vous regardant dévorer des gigots sous mon nez. Alors c'est quand même pas normal. Enfin, le droit, c'est pas ça. Bon, et ainsi de suite. Deuxième exemple que je donnerai, alors ça c'est le cran supérieur, l'animosité grandit. Et vous avez quoi? Vous avez lisé les dissidents, comme on dit, les dissidents russes. Lisez les descriptions de la société communiste qu'ils ont pu donner. Ils ne sont pas souvent de grands philosophes, et je ne suis pas sûr qu'ils comprennent très bien les choses, mais il y a au moins une chose qui apparaît clairement, c'est qu'ils sentent admirablement, je pense à Solzhenitsyn en particulier, ils sentent admirablement la haine sous-jacente de l'individu, de chacun pour son voisin. Et ils ne cessent de répéter, j'avais même apporté ici, j'en parlerai peut-être une autre fois dans une autre conférence, j'ai apporté ici dans l'avion, en venant et trouver un petit article sur les idées, mais la haine n'est pas morte. C'est le dernier développement, à mon avis, de la philosophie des droits de l'homme. Le communisme, sous ses formes les plus extrêmes, les plus haineuses et les plus catastrophiques, n'est jamais que le produit ultime de la philosophie des droits de l'homme. Alors je conclue d'un mot. Conclusion, là, vous allez me dire, mais alors, où est le remède, quel est le contraire? C'est très simple. Le contraire de la philosophie des droits de l'homme, c'est la philosophie des devoirs de l'homme. Et pendant 20 siècles, jusqu'aux droits de l'homme, et puis depuis, évidemment, alors la quantité de ceux qui défendent cette philosophie diminue tous les jours, mais on n'a fait qu'une chose. C'est dire que l'homme avait des devoirs. Alors, d'où il suit d'ailleurs, effectivement, mais à titre de conséquence, on ne peut pas affirmer comme des droits, d'où il suit que ce que la philosophie des droits de l'homme se donne pour but d'obtenir, c'est-à-dire le respect de l'homme, le respect de chacun, il suit évidemment de la philosophie des devoirs. Et je trouve même que cette philosophie n'est pas simplement un aspect purement mystique, et purement éthérique. C'est très pratique. Personnellement, je confierais beaucoup plus volontiers ma maison à quelqu'un qui a le sentiment qui a le devoir de ne pas me voler, qu'à quelqu'un qui a le sentiment que j'ai le droit de ne pas être volé. De très loin, je préfère moi, les hommes qui ont le sentiment, qui ont des devoirs à mon égard, à l'affirmation, comme le personnage perdu dans la forêt qui clame aux arbres et aux loups qu'il a des droits, enfin, l'affirmation que j'ai les droits. La philosophie des devoirs de l'homme est irremplaçable. Irremplaçable. Voilà, bon, ben, je n'ai que trop parlé, je m'arrête là. Bon, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous en prie, monsieur.
Vous mentionnez à un certain moment que l'imputation des fautes et des crimes n'est plus possible.
Oui.
Moi, ça donne que je travaille comme seul clinicien dans un centre de protection enfant jeunesse au niveau des spectres psycho-légales et juste concernant les abus sexuels, les agressions, tout ce qui concerne ce domaine-là. Bon. Et j'ai rattaché des choses, j'ai commencé à un petit peu à me chercher l'esprit quand vous avez parlé que la Charte des droits ne pouvait pas faire autre chose qu'à certains moments à être relié à la haine. Et j'ai pensé déjà avoir plus clair dans cette dernière partie de votre conférence que comment c'était relié le fait qu'on peut envoyer facilement un père en prison qui va en compte de l'imputation de la faute et des crimes n'est plus possible. Elle est possible, elle est réelle, elle est outrageuse présentement dans les domaines de pratique dans lesquels je suis. À quel point qu'on peut facilement envoyer un agresseur, un abuseur, quoi que ce soit, concernant la sexualité, c'est un terme que vous pouvez aussi nous élaborer un peu plus concernant les valeurs qu'on a dans la société américaine, nord-américaine. C'est que comment est-il possible de faire ça si facilement dans un contexte où on a une charte de droits conscient, élaboré et doublé au niveau national, au niveau provincial, qu'on peut envoyer si facilement des individus en prison après des procès très rapides sur des évaluations et des données et des éléments de données qui sont faits par des gens qui ne sont même pas reconnus par des corporations professionnelles et qu'on va effectivement civil, imputer les fautes et les reconnaître de crimes. Alors que vous dites, bon, que ce n'est plus possible. Alors, moi là, lorsque j'ai vu l'autre partie, la dernière partie de votre conférence, faisant lien avec que c'est inévitable que ça va développer de la haine entre les personnes, je me dis, mais comment relier ça avec le rôle de l'État présentement qui va culpabiliser les individus et offrir toute une gamme de compétences, de professionnels payés par l'État, dont j'en suis, moi, des personnes dans ce cas-là, pour arriver à ce qui va à l'encontre d'énoncer des principes qu'on n'impute pas ni de faute ni de crime à personne. Comment on peut arriver à concilier ça dans le contexte de...
Vous voulez dire, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que vous voulez dire, vous voulez dire qu'il vous paraît qu'on peut, dans le même temps, accuser trop facilement les gens...
Humain.
Trop facilement.
Oui, avec beaucoup de légèreté même,
sans même
demander au préalable de prouver la compétence des experts amenés à faire les accusations de crimes et d'envoyer ces individus-là en prison pour des années. Ce sont des pères de famille ou des mères, peu importe le genre.
Vous voulez dire qu'ils sont accusés sans un
abus sexuel,
d'inceste,
non, mais ça peut, il est possible que des choses sont fondées, mais ça... sur finalement très peu d'éléments, et c'est tout au nom des droits de l'enfant. Du coup, au Québec, on a ça maintenant, la loi 24, là, qui fait un peu à part avec le chapitre 48 de la loi universelle du service public. Voilà, on a la protection de la jeunesse au Québec, qui est forte de charte de droits avec la loi de la jeunesse, et qui peut pousser très loin les rapports qu'il y a en termes de droits et en termes de revendications. Comme vous avez dit tantôt, on ne parle pas du tout à l'intérieur de ça des devoirs des enfants à l'égard de leurs parents. Ça, c'est important. En tout cas, moi, je suis d'accord depuis 1979, là, c'est que j'ai dénoncé la loi de la protection de la jeunesse. Et je n'ai jamais vu un énoncé, ni par des juges, ni par les tribunaux, ni par le gouvernement, en termes, voici maintenant un manuel des devoirs des enfants à l'égard de leurs parents.
Oui.
J'ai jamais vu ça. Juste un commentaire là-dessus.
Non, mais je crois comprendre mieux ce que vous voulez dire maintenant, en fin de temps, mais précisément, vous répondez à vous-même, de certaine manière, me semble-t-il, n'est-ce pas? C'est au nom des droits supposés. Les droits sont constamment. Il y a toujours le sens de nouveaux droits au nom desquels on peut trouver un coupable.
Oui.
N'est-ce pas? C'est ça le phénomène fondamental. Enfin, il peut se trouver dans certains cas. Ce qui me gênait un petit peu, c'est que, il s'agit de distinguer une situation où, si vous voulez, la justice n'est pas effective. Rendu, ça pose des problèmes, mais il y a une autre, enfin, ce qui me paraît du point de vue des droits de l'homme, ce qui me paraît évident, c'est que cette philosophie peut servir, en effet, et je l'ai dit, c'est bien des choses que je veux dire, peut servir à faire condamner à tort et à travers n'importe qui, n'importe comment. Bon, parce que vous inventez des droits au fur, selon, alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on fait en général condamner le plus faible. Bon. Nous sommes en société de plein rapport de force. Il est arrivé des histoires comme ça en France. J'avais l'occasion d'en parler, je pense, peut-être avec vous l'autre jour. Il est arrivé, l'année dernière, il y a eu un crime absolument épouvantable. Une petite fille d'une dizaine d'années, d'une douzaine d'années, qui a été violée, torturée, massacrée par deux individus connus par la police. Drogués, et dont la culpabilité était parfaitement établie. On a retrouvé leur voiture, les empreintes. Enfin, le procès a duré 6 mois, tout était clair. L'un était passé aux aveux, puis s'est rétracté. Enfin, la chose était. Ne posait pas de problème. Enfin, bon, la justice devait suivre son cours. Ils ont été acquittés. N'est-ce pas? Parce que ça, alors, en invoquant effectivement des droits variés, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? Parce qu'il y a eu un groupe de pression plus fort que la simple famille de la petite fille. Il se trouve que l'un était homosexuel, il y a eu le lobby homosexuel, l'autre était drogué, il y a eu le lobby des drogués, le troisième était le frère d'un homme politique connu en France, etc. Alors, il y a eu un lobby. Mobilisé et qui a alors, mais nous parce que nous sommes en situation de chacun, il y a la multiplication des droits de l'homme en réalité équivaut à une disparition du droit. Les droits de l'homme, ça c'est la mort de la justice. Ah, et alors là, on a invoqué, le droit, ce n'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il est coupable, ce n'est pas parce qu'il est drogué qu'il est coupable, on a le droit de se droguer, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela, et après tout, s'il est les petites filles, ça le regarde. C'est quand même pas, ça s'est un peu mal passé, évidemment. Ça s'est un peu mal passé. La petite fille a été torturée, la petite fille a été violée, la petite fille a été tuée. Oui, bon, c'est un peu excessif, d'accord. Mais enfin, il ne faut pas faire un procès simplement, parce qu'il a été en prison 3 fois, 2 fois pour vol de voiture, 1 fois pour assaut sexuel sous l'influence de la drogue. Il ne faut quand même pas... L'homme a des droits. Vous voyez? Et au nom du droit, c'est l'injustice. Et c'est comme ça, c'est un exemple très précis, ça a à peu près 1 an. Et le mécanisme philosophique, il est là. Oui, mademoiselle.
Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les droits et les devoirs et tout ça. Je comprends que les droits souvent vont protéger les criminels avant de protéger les gens dans la société. Ce qui arrive, c'est que les gens qui font des crimes sont protégés par les droits que nous, on est censés avoir.
Voilà, exactement. Oui.
Là, maintenant, justement, je suis en train de discuter de ça avec un collègue en philosophie. Si, par exemple, on avait une charte des devoirs, comment pourrait-on contrôler ça? Parce que là, moi, je peux arriver et dire, votre C'est juste que la situation est inversée. Comment pouvoir avoir un meilleur contrôle sans juste inverser les rôles et avoir la même situation? C'est ça qui me trouve
la plus. Et j'aurais tendance à répondre de manière extrêmement classique. La philosophie des droits, des devoirs de l'homme était solidaire de l'affirmation que l'homme a une conscience. Le devoir ne vaut plus rien à partir du moment effectivement où il n'y a plus au fond il est solidaire d'une philosophie de l'intériorité. La philosophie des devoirs est parfaitement efficace quand tant que vous pouvez avoir peur de vous regarder dans une glace. Et c'est ce que toute la philosophie chrétienne et païenne a continuellement affirmé depuis Platon. La seule garantie, ce qui fonde les rapports humains, c'est que l'homme a une âme. Et pour reprendre une idée parfaitement traditionnelle, qui est le simple bon sens, il est évident que la conscience morale ne va pas sans conscience spirituelle ou sans conscience religieuse. La conscience purement morale, en demeurant purement naturelle et purement humaine, risque toujours de tourner à quelque chose qui est à l'avantage de l'homme, si vous voulez, enfin je veux dire, qui est fabriqué par l'homme selon ses... Donc la solution elle est simple, elle existe, hein. C'est la philosophie traditionnelle où le naturel, la raison, la conscience, la raison et la religion se prédèrent.
Oui, monsieur. Ma question originale était un peu dans son sens, mais est-ce que vous développez, quand vous parlez, est-ce que vous avez démontré d'un point de vue logique? Pourquoi les droits de l'homme ne se tenaient pas en tant que soi? Pourquoi c'est anarchique
dans le fond? Oui.
Pourquoi ça créait plus de problèmes que de solutions? Alors, est-ce que vous avez présenté les devoirs de l'homme en développant sur la question de la projet en disant, c'est en rapport avec la conscience et puis une conscience religieuse. Maintenant, il me semble que si quelqu'un manque quand même un gros morceau, il faudrait encore plus élaboré, parce qu'à ce moment-là, la conscience religieuse, ça peut être la conscience musulmane, ça peut être la conscience
juive, tout à fait raison,
la conscience chrétienne, ils ont tous des différences énormes.
C'est vrai, tout à fait raison. Alors là, c'est quasiment un autre sujet, si vous voulez, mais je serais prêt à traiter.
Dieu, en fin de compte, c'est que la conscience est dominée par Dieu. Alors, quel Dieu ?
C'est ça. Si vous voulez une formule brève, je pense que là où il n'y a plus de Dieu, les hommes se font la guerre. L'homme devient un loup pour l'homme, c'est parfaitement vrai, mais précisément, ce n'est pas un hasard si Hobbes était un des premiers athées. Il était encore un petit peu prudent, à l'époque, quelques ennuis, tout ça, mais il l'était profondément. Un des premiers athées explicites et lucides. Ce n'est pas un hasard. Alors, cela dit, en effet, quel Dieu ? Vous avez tout à fait raison, ça c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que c'est un... Enfin bon, ça fait deux ans que je m'interroge sur ça, que j'essaie de faire des mettre au point quelques idées sur ce genre de sujet. Je ne sais pas très bien comment bon, effectivement, je me bornerai si vous avez une remarque, prenons la chose la plus simple qu'on puisse dire en la matière. Tenez, je vais m'en... Si vous voulez, c'est au moins pas le Dieu, c'est au moins pas le Dieu que beaucoup de tenants de la philosophie des droits de l'homme invoquent volontiers. Souvent, ces gens disent, mais nous croyons en Dieu. Après tout, le pape Jean-Paul II est le chef de l'Église catholique et il considère ce qui me paraît absolument extraordinaire du point de vue philosophique, que le fin mot du christianisme, que l'argument essentiel auquel toute la tradition chrétienne aboutit, c'est précisément la philosophie des droits de l'homme. Bon, alors vous avez donc en principe un chrétien, un catholique, quoi, qui dit, mais voilà, le catholicisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il défend les droits de l'homme. Ça, c'est ça le but du catholicisme, c'est l'incarnation du catholicisme. Bon. Alors ça, c'est... Voilà, alors là, on peut dire au moins une chose, c'est que j'ai fait quelques études là-dessus, il me semble qu'on peut montrer, alors ça, c'est l'histoire des idées, si vous voulez, c'est l'histoire de la philosophie. On assiste, me semble-t-il, et c'est très clair dans les textes, quand on les étudie, tous les gens qui écrivent dans le siècle des Lumières, 80%, 90% de ces auteurs, les Locke, les Montesquieu, même Rousseau, d'ailleurs, ils sont théistes, ils sont déistes, ils veulent croire en Dieu. Voltaire lui-même déclare croire en Dieu. Bon. Voltaire lui-même dit, moi je n'aime pas les catholiques, mais je crois en Dieu. Bon, alors, il y a au moins une chose certaine, c'est que, si vous voulez, pour répondre à vos questions, ce n'est pas ce qui me paraît, pour essayer de décrire en trois mots ce que je veux dire, ce qui me paraît caractéristique de ce Dieu-là, c'est que précisément, c'est un Dieu sur mesure, si j'ose dire, sur mesure humaine, que c'est un Dieu qui, en réalité, est au service d'une espèce de légitimation de l'individu tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un Dieu des droits de l'homme. Enfin, ce n'est pas un hasard si, effectivement, tel catholique ou chrétien peut invoquer les droits de l'homme, parce que son Dieu n'est en réalité que le Dieu des droits de l'homme. Et il est évident que ce n'est pas ce Dieu-là qui peut, en effet, servir d'été à une théorie alternative de celle des droits de l'homme. Mais, alors, cela dit, je préfère m'arrêter parce que vous avez posé une très bonne question. J'aurais, par exemple, ça fait des années que je connais un petit peu l'islam, par exemple. Je m'intéresse beaucoup au phénomène de propagation de l'islam. Et là encore, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le Dieu des musulmans et sur le fait que je ne vois pas non plus comment ce genre de Dieu peut s'opposer à la théorie des droits de l'homme. Enfin, bon, mais, en dépit de la parole, on va dire mais au contraire. Mais moi, je suis désolé, mais je crois que je ne peux pas entrer, si vous voulez, dans ces concepts de domaine trop loin. J'en reste content à la question. Si vous voulez.
Il me semble que.
Oui, je vous en prie.
Il me semble que. En regardant choisir son Dieu selon si le pose les devoirs de l'homme, si pas en accord avec les devoirs de l'homme, il faut peut-être revenir aux sources sans savoir, parce que c'est Dieu qui règle tout.
Ce Dieu, vous savez, j'aurais pu dire autre chose, ce Dieu, vous pouvez le trouver, il suffit de regarder toute la partie. Dans Saint Thomas, vous trouvez dans Saint Augustin, vous trouvez dans tous les pères de l'Église, vous trouvez dans la tradition catholique, vous trouvez, et j'oserais même dire, en ce qui me concerne, vous en trouvez les prodromes chez les grands philosophes païens. Vous en trouvez les prodromes chez les stoïciens. Une philosophie pré-chrétienne qui me paraît déjà contenir des germes, ça me paraît déjà. Platon, vous avez un sens de la transcendance qui est déjà très chrétien dans la mesure du possible. Non. Ce Dieu-là, vous le trouvez, vous êtes pour le dire aussi.
J'ai arrivé que c'était une question philosophique. Et bon, même dans la philosophie chrétienne, n'est-ce pas, on peut quand même vivre en accord avec les autres religions. Bien qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais on peut les protéger, vers le droit.
Oui.
Et c'est ça dont on parle ici, une société qui peut se tenir du pouvoir, n'est-ce pas? Même il y a la tolérance dans...
Oui, c'est vrai, oui, bon, ça c'est encore un autre sujet. sujet, si vous voulez, c'est encore une autre conférence, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que la tolérance au sujet? Bien sûr. Si vous voulez, tenez, alors, je serais tenté de vous répondre que je me parlais de tolérance. La tolérance des droits de l'homme, ce serait la tolérance du maître d'école pour l'élève qui ne veut pas apprendre, fait des fautes d'ordre ou qui les disent, sous prétexte que demain, il pourra être aussi savant que le maître. Sous prétexte que éventuellement après tout, il pourrait être maître d'école, je ne dis rien aujourd'hui. Ce qui est la vision caricaturale de la tolérance, qui est développée précisément par Philippe Rondeau. Mais là encore, ça nous entraîne à se voir, je ne sais pas, peut-être trop rapide. Vous avez d'autres...
Parce que là, on parle de religion, etc., on parle de devoirs, mais les devoirs pour les chrétiens, ce ne sont pas les mêmes devoirs pour les musulmans, les mêmes devoirs. On parle dans un contexte religieux. Puis justement, je suis en éducation cette année, je suis en formation en enseignement,
oui.
Un cours de valeur.
Oui.
Et puis, ils ont énormément de difficultés parce qu'on essaie de parler de valeur à l'extérieur de la religion. J'essaie de penser comment on pourrait avoir, par exemple, une charte de devoirs qui existerait à l'extérieur, universelle, qui existerait à l'extérieur des paramètres religieux, si je ne peux pas vous imaginer.
Ah, je crois que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible de penser ça en dehors des principes religieux.
Alors,
il n'y a que la religion qui puisse assurer une universalité réelle et pas simplement formelle. Je pense.
C'est ça que je pense. À cause des problèmes, justement, parce qu'il y a une telle diversité dans les religions.
Vous pensez que par définition, de toute manière, l'universalisation des valeurs n'est pas possible.
L'universalisation des valeurs n'est pas possible. Oui, la diversité des religions.
Vous pensez comme mon père, pas comme moi.
Ah.
Je voudrais que vous lisiez son dernier livre sur la pluralité des cultures. Il ne croit pas du tout qu'il y ait des valeurs universelles possibles.
Mais
c'est parce que, évidemment, il résonne en dehors des cadres de cadres religieux.
Comme chrétienne, je crois qu'il y a des principes universels, mais sont universels pour tout le monde dans la mesure où les autres religions vont accepter les principes que moi j'accepte comme chrétienne. C'est ça la difficulté. C'est que c'est seulement acceptable pour les personnes qui sont de foi chrétienne.
Oui, je comprends bien, oui, bien sûr.
Moi, personnellement, je suis d'accord avec vous.
Mais si vous voulez, la difficulté de principe, c'est que au point de départ, vous mettez toutes les religions sur le même plan. Le problème est insoluble. Enfin, le problème consiste à dire, il faut bien qu'il y en ait une qui soit la vérité des autres. Et le problème intéressant devient laquelle. Et comment peut-on démontrer que l'une est la vérité des autres? Mais si vous ne commencez pas par ce présupposé, vous n'en sortez pas. Par définition, le problème est définitivement insoluble. Et c'est pour ça, je pense, moi, mais c'est une démonstration d'ailleurs, qui est aux limites de la philosophie d'ailleurs, on se rend compte peut-être dans la théologie, j'en sais rien, moi je ne suis pas théologien, je me garderais d'entrer dans la théologie. Mais le problème est là. Comment arriver à montrer qu'il y a une religion, non pas qui est, si vous voulez, meilleure, enfin on va au Canada, non, une religion qui est la vérité des autres.
Est-ce que c'est possible de faire
Je crois. Je crois.
On pourrait parler de ce qui se passe dans l'idée fondamentale derrière l'écuménisme, qui est une initiative de l'Église catholique.
Oui.
Et on cherche quoi? Est-ce qu'on n'est pas convaincu qu'on a quelque chose comme étant la vérité qui permet d'éclairer les autres? ça n'a pas l'air pas du tout. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un peut faire une réflexion cohérente là-dessus, ou logique, ou historique?
Ah ben là, il me semble que sur ce point, on peut dire une chose très logique, c'est que l'œcuménisme est une contradiction dans les termes. Je veux dire, si on se donne, si on considère que l'œcuménisme est une recherche de l'unification des religions, c'est une contradiction dans les termes. Parce que l'œcuménisme lui-même pose le problème de telle manière qu'il s'interdit a priori de jamais parvenir à l'idée qu'il puisse exister une religion unificatrice.
C'est
donc l'œcuménisme, c'est une plaisanterie. En fait, c'est une...
Il a pu sauver une conférence.
C'est très gentil. J'hésite beaucoup à commencer à vous répondre, parce que vous comprenez, on n'est pas dans un quiz télévisé. Les populations vous entendent. Mais on ne peut pas donner une formule, si vous avez des questions, comme ça, en trois mots. Voilà, en trois mots, quelle est votre solution? Bon, je peux donner trois mots si vous voulez, peut-être, mais aussitôt ça va. Maintenant, j'aime mieux pas, parce que aussitôt je me dis, mais non, mais enfin, cette formule est trop simple. Bref, il faut développer un petit peu. Mais je vous aurais dit, la philosophie des droits de l'homme. La philosophie des droits de l'homme, ben, je ne suis pas sérieux, parce que j'ai le droit, j'ai le devoir, voilà, je vous en parler, c'est rien. Vous me mettriez un peu dans la position de faire ça, vous comprenez? Il faut quand même comprendre de quoi il s'agit, il faut un peu développer, voir où ça va, si ça tient debout ou pas, montrer que ça tient pas debout, etc. Alors, voilà. Si c'est aussi sympathique que ce soir, très volontiers.